Cours de philosophie du vivant par le Père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 22 avril 1993.
Petite remarque au plan. Réflexion critique sur la philosophie du vivant comparée à la psychologie. C'est quand même très important pour nous. La philosophie du vivant est une philosophie, donc elle implique un souci de découvrir les causes propres. Et elle ne peut le découvrir que par l'analyse. La psychologie est descriptive et saisit les relations nécessaires pour établir des lois. Dans la mesure où on peut les établir. On verra ça beaucoup mieux avec les passions. C'est le terrain des passions qui est le lieu par excellence pour mieux saisir la distinction du psychologisme et de la philosophie. Et une fois qu'on a bien saisi ça, il n'y a plus de danger de tomber dans le psychologisme. Il est tout expliqué par la psychologie. Ça, c'est très important dans notre monde d'aujourd'hui. Oui, comme il faut distinguer la vie, l'analyse de la vie biologique, de la vie végétative, de la science biologique. Je vous ai toujours donné cet exemple parce que moi, ça m'a beaucoup frappé. Avec ce professeur en faculté de médecine, j'essaierai de retrouver cette conférence parce que ça vaut la peine de la lire. La politique de la vie. Et après cette conférence qui était très brillante et qui durait 3 heures, on dit, que dit le philosophe? Alors je suis parti tout de suite de dire, tout ce qu'il a dit provient d'une expérimentation et d'une analyse scientifique. Non pas de la vie, mais d'un vivant. Vous voyez, d'un vivant qu'on est obligé de tuer pour l'analyser. Parce que le chirurgien ne fait pas d'analyse scientifique. Il est un artiste. Et s'il faisait une analyse scientifique pendant qu'il est en train de faire son œuvre artistique de chirurgien, le client mourrait.
D'Espagne, docteur en biologie,
nous est donnée par l'âme. L'intelligibilité du corps humain nous est donnée par l'âme. Il est sorti de là, dit, mais alors, notre science biologique, qui n'étudie que le corps, elle ne connaît rien de l'âme. Elle ne connaît donc rien de l'homme. Si oui, c'est vrai. Mais c'est affolant. Ben oui, c'est affolant. Vous qui êtes docteur en sciences biologiques, vous n'avez pas encore compris que vous ne connaissiez que le corps ex parte materiae, la disposition, aucun principe. La disposition. Oui, c'est l'erreur de celui qui dit que connaissant le chiffre biologique, on connaît l'âme. Mais non, on ne connaît pas l'âme, le chiffre biologique. Et le chiffre biologique vient de l'atavisme. Connaissance matérielle, pas la connaissance de l'âme, pas du tout. C'est très très important, vous voyez, parce que autrement on fait des confusions, et si on vous met dans la commission de la bioéthique, vous n'y comprendrez rien du tout, et vous direz de grosses bêtises. Alors que l'enjeu est capital aujourd'hui, on est peut-être en train de décréter le suicide de l'espèce humaine. Vous voyez dans quel sens je veux dire? Parce qu'on ne connaît pas vraiment l'homme. On connaît l'aspect générique de l'homme. Ex parte materiae, c'est saint Thomas qui dit ça, hein, la disposition ex parte materiae. Tout ce que vous pouvez mesurer, analyser scientifiquement, biologiquement, c'est ex parte materiae. Et l'âme, et le vieil Aristote nous dit, la quiddité du corps humain, c'est l'âme. L'intelligibilité du corps humain se fait par l'âme. Ça vous donne une douche d'eau froide. Et je rappelle ça parce que c'est un nota bene, hein, ce que je vous ai dit, c'est un nota bene auquel il faut revenir souvent. Pour comprendre qu'est-ce que c'est que la philosophie du vivant. Donc j'analyse pour saisir les causes propres. La première chose qu'on découvre quand on étudie la philosophie du vivant, c'est la philosophie de l'homme vivant. Je n'étudie pas la philosophie de l'araignée, de l'hippopotame ou du chameau. C'est l'homme. Je ne peux faire la philosophie du vivant que de l'homme. Ça, il faut le comprendre aussi. Hein. Parce que j'ai une connaissance particulière de la vie, une expérience interne de l'âme. Et cette connaissance interne de l'âme me conduira à avoir une connaissance interne de l'être. Il faut bien comprendre ça. Je recherche en premier lieu qu'est-ce qui fait l'unité de ce vivant si complexe qui est moi-même. Je suis le lieu de ma recherche du philosophie du vivant. Je m'aperçois de la multiplicité de mes opérations vitales et l'unité. Je m'aperçois cette chose très curieuse tous les matins. J'espère que vous faites cette expérience de vous réveiller, de passer de la douceur du sommeil à la difficulté de l'éveil, et que vous faites ça avec joie pour donner la tonalité de la journée. Tandis que si vous dites, oh, je suis fatigué, toute la journée vous serez fatigué et vous serez de mauvaise humeur. On est joyeux de se réveiller pour aller prier. connaissance affective par l'intériorité. Je connais mon âme. Je n'ai qu'une âme qu'il faut sauver. Hein? Je connais mon âme affectivement, la présence de l'intériorité en moi. Et puis je connais philosophiquement mon âme par l'induction. Et ces deux connaissances aboutissent à la même réalité. L'immense avantage de l'âme, c'est que j'ai une connaissance affective immédiate de mon âme, ce que je n'ai pas de la substance. Ah, ce que je n'ai pas de la substance. Attention, j'ai la connaissance du je suis. Dans le je suis, il y a la présence actuelle de l'âme, de la substance. De l'âme comme substance. Et c'est ce qu'apporte le je suis. Ah, l'induction de la substance. Mais la différence, vous voyez, de la connaissance de l'être et la connaissance de la vie, c'est quand il s'agit de la connaissance de la vie, j'ai en premier lieu une connaissance affective de mon intériorité. Tandis qu'au contraire, quand il s'agit de l'être, j'ai d'abord une connaissance de ceci est, puis la connaissance du je suis. Ça parce que c'est très éclairant pour beaucoup de choses d'aujourd'hui. Quand il sait la connaissance de la vie, connaissance philosophique du vivant, de moi vivant. Premièrement, connaissance intériorité, intériorité affective, de la présence de mon âme. vie passionnelle, qui n'est pas ma vie affective. Et puis, j'ai ma vie spirituelle, intellectuelle et volontaire. Trois degrés de vie. Cette distinction des trois degrés de vie, nous l'avons vu, hein, est capitale. Elle est très ancienne. Elle a commencé par un point de vue religieux des pythagoriciens. Si tout noviciat vous apprenez qu'il y a trois degrés de vie en vous, le petit déjeuner du matin qui n'est pas la prière, c'est déjà bien de distinguer les deux. Peut-on prier en mangeant? Peut-on manger en priant? C'est la fameuse question, n'est-ce pas? D'autres disent, peut-on fumer en priant? Peut-on fumer en priant? Peut-on en fumant prier? Ça va bien. Évidemment qu'il ne joue pas au noviciat, ça c'est sûr. Je transforme en mangeant. Alors, je distingue la vie végétative. Je mange tous les matins. Puis, ma vie affective. C'est très important au noviciat de discerner ma vie affective. Comme je suis en serre surchauffée, on surveille la chaleur tous les jours. Il y a des éclosions qu'on n'avait jamais connues avant. Très curieux, des éclosions. Parce qu'on est dans un cercle particulier. Il faut une certaine intériorité pour que certaines choses apparaissent. C'est pour ça qu'on essaie d'inventer un noviciat maintenant pour les séminaires. Parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des éclosions qui ne se faisaient qu'au noviciat. Mais on ne pourra jamais avoir autant de chaleur. Ça, c'est sûr. Grâce à la vie religieuse, on peut avoir un certain degré de chaleur. Dans un séminaire, forcément, ça ira moins loin. Et donc, les éclosions sont moins radicales. Au noviciat, tous les refoulements antiques reviennent avec violence du côté de l'irascible et du côté du concupiscible, parce que c'est fait pour ça. Vous savez que pour les agriculteurs, il y a la semaille avant l'hiver, le blé, et la semaille de printemps. Alors je crois que le noviciat semaille avant l'hiver. Et le blé est toujours beaucoup mieux. Il a quelque chose de particulier qui n'arrête pas la semaille de printemps, qui est plus superficielle. C'est très important de comprendre ça. Alors, on découvre une vie affective auquel on n'avait absolument pas fait attention avant. Une imagination formidable. Ça pousse. Vous savez comment on serre ces plantes qui poussent. Ah, tout de suite. Hein. Mais on dit, c'est bon à couper. Ça ne peut pas produire de fruits, ça peut produire de fruits. C'est extérieur. On distingue l'aspect imaginatif de l'aspect réel. Distinction importante. Et on voit qu'on vivait l'imagination avant. Qu'on n'avait pas encore découvert le réel. On avait confondu le réel et l'aspect mécanique. C'est pas autre chose est d'écouter le bruit d'un moteur, d'aviation, d'avion ou d'auto, et écouter le cœur de l'homme. Distinction quand même assez importante. indispensable. Donc il faut quand même balayer pas mal de choses, puisque la plupart des hommes qui vivent en ville vivent d'un réel artificiel. Ils pensent que c'est le réel. Non, artificiel. Il faut redécouvrir le réel. Ce que l'homme n'a pas encore touché. L'être sauvage de Merleau-Ponty. Et non pas l'être conventionnel. Le mécano, tout ce que l'homme fait, le mécano, c'est conventionnel. C'est le reflet d'une société qui vit de consommation, qui vit de ce qu'elle fabrique.
Parce que l'organe de ma
pas immédiatement, mais radicalement. C'est sûr. Puisque je suis un vivant quand je prends mon petit déjeuner. C'est un vivant, et quand je regarde chacun prendre son petit déjeuner, je dis, ah, ce grand vivant, il a besoin d'un pain entier. Alors pour lui, évidemment, jeûner, ce sera assez particulier. On lui dira de prendre la moitié du pain. Il jeûnera avec quand même 15 tartines. Parce que quand il ne jeûne pas, il en prend 30. Tandis que celui qui d'habitude en prend 5, quand il jeûne, il en prendra que 3. Il jeûnera. Mais comme si. Curieuse, hein. Constatation de ce que c'est que manger. Et le philosophe s'intéresse à ça. J'ai un laboratoire philosophique quand je regarde mes frères manger. Il y a un laboratoire extraordinaire, merveilleux. Je ne le fais pas parce que ce serait gênant, mais c'est un laboratoire philosophique. Parce que je vois que chacun mange individuellement d'une manière unique. Surtout au début, hein, au bout de 6 mois, 1 an de noviciat, il y a un régime commun. Oh, c'est très curieux. La vie végétative se met au régime commun. Le bien commun du petit déjeuner. C'est ça la vie commune, il y a un bien commun. Il y a un bien commun au niveau de la vie végétative, au niveau de la vie sensible, au niveau de la vie intellectuelle. Et c'est pas commode, hein, d'entrer dans ce que représente la vie commune. Mais si vous gardiez vos mœurs individuelles du petit déjeuner, voyez ce que c'est. Moi, je ne peux prendre que du pain grillé. Je suis tellement habitué à ça. Et il doit être chaud. Parce que t'es aussi... Elle va dire, ah non, non, habituez-vous à prendre ce qu'on vous donnera. Le pain que vous n'aurez même pas choisi, il sera coupé, il ne faudra qu'à prendre. Vie commune, quant au petit déjeuner. Or, pour ceux, dans le monde d'aujourd'hui, le petit déjeuner, c'est pour beaucoup de personnes, les anglo-saxons. C'est capital. Et alors on doit prendre un petit déjeuner de souris. Pas commode. Mais alors, je vois la dunamis et l'organe propre de la nutrition. Et que le savant va étudier pour voir comment il y a des phénomènes où la digestion se fait mal, voir comment se fait la sécrétion pour assimiler. Et on verra qu'il faut de temps en temps en ajouter parce qu'on n'est plus assez vivant. Le boa a diminué. Mais passer l'estomac du boa à la souris, ça fait quand même quelque chose. Et la vie commune, le rouleau compresseur de la vie commune. On vous demande pas, quand vous entrez de via, qu'est-ce que vous prenez d'habitude au petit déjeuner? Non, vous entrez de via, un petit déjeuner comme ça. Oh tiens, j'avais pas pensé ça. Et pour certains, c'est un obstacle. Continue. Vous passez du petit déjeuner que vous preniez à ce déjeuner comme. Pas commode. Bien le repas de midi, c'est la même chose. Alors, il y a des refoulements terribles. J'aurais besoin d'un régime. Je digère mal. J'ai des douleurs à l'estomac. Ça va plus. Mais toute vie intellectuelle ou religieuse fait que c'est pas commode de cohabiter pour l'estomac avec un religieux. La cohabitation est très très difficile. La cohabitation pour l'estomac, la vie végétative et la vie intellectuelle, oh, c'est très difficile. Alors, il faut cohabiter. Et non seulement cohabiter, mais cohabiter ensemble. assimile un aliment. C'est prodigieux. C'est prodigieux, cette usine qui se fait tous les jours. Oh, de fait, j'assimile. J'assimile en grandissant. Tant qu'on est jeune. Puis à un moment donné, on ne grandit plus. Mais alors, on grossit. On se rattrape de ce côté-là. C'est quantitatif, hein. Augmenter, c'est quantitatif. Alors, la vertu de croissance, à un moment donné, s'arrête. C'est curieux, hein. Et on ne fait que réparer les pertes. Des luttes, des stress de toute la journée. Parce qu'aujourd'hui, on parle toujours de ça. Alors, ces luttes, on doit réparer. Et puis, il y a une vertu spéciale pour la procréation. Le vivant est capable d'engendrer. Il est fait pour ça. Alors, on peut étudier, là encore, la virtus. La faculté de ça, la puissance, et puis l'organe qu'on étudiera particulièrement, et on verra que tout ce point de vue de la vie végétative est finalisé par la procréation. Alors ça, c'est les rapports extrêmement intéressants de l'individu et de l'espèce. Au point de vue de la vie végétative, la procréation, c'est parce que je suis gardien de l'espèce. Je suis gardien de l'espèce. Chacun d'entre nous sommes gardien de l'espèce. Et donc il y a un devoir au nom de l'espèce, de la procréation. C'est pour ça que c'est si impératif. C'est pour ça que la puissance du côté végétatif de la procréation s'impose comme une nécessité. Seul l'homme, par son esprit, dépasse ce pouvoir impératif de l'espèce. Alors, on est en présence de la personne. Et c'est une manière d'étudier ce que c'est que la personne. La personne, c'est celui qui fait que la nécessité de l'espèce se ramène à la finalité de la personne. Pour l'animal, l'individu est finalisé par l'espèce. Quelle est la finalité de la petite souris? Je dis ça parce que, avec Monseigneur, l'autre jour, le soir, les souris aiment de se promener le soir. Alors, il y avait une petite souris qui s'amusait, là. Elle avait, oh, tout près de nous. Elle était très, très, très amusante. Elle était très chez elle, ici. Parce qu'elle voyait qu'avec les moines, c'était bon pour elle. Alors elle pouvait, il n'y avait pas de chat, vous comprenez, pour manger la souris. Alors il y a une petite souris qui dansait, avec ses distances. La petite souris, elle est finalisée par quoi? Par la petite souris qu'elle engendrera. C'est très curieux. Instinctivement, elle n'a aucune conscience de ça. C'est l'instinct. L'homme, parce qu'il est capable d'une finalité spirituelle, comprend que son individu est assumé par la personne. Et donc, sa finalité propre d'amitié, de contemplation, fait que la finalité est au niveau de la personne et non plus au niveau de l'espèce. Et ça, c'est capital de comprendre ça. Parce que aujourd'hui, étant donné que la psychologie ne regarde plus le point de vue de l'âme spirituelle, on est en face, on est en présence d'un oubli de l'âme. Il n'y a pas que l'oubli de l'être. On devrait écrire un livre, l'oubli de l'âme spirituelle. L'oubli de l'âme spirituelle se fait au niveau psychologique, au niveau sociologique. On oublie complètement ce que c'est que l'âme spirituelle. Alors, l'individu reprend tous ses droits. Il n'y a plus que l'individu. Et comme l'individu est soumis à l'espèce, l'espèce reprend tous ses droits. Et le droit impératif numéro un, c'est la sexualité. Tous les refoulements du côté de la sexualité détraquent. Parce qu'on oublie la finalité de la personne, de l'âme spirituelle. Mais il faut étudier ça de très près pour bien comprendre ce qui se passe dans notre monde d'aujourd'hui. La seule manière de dépasser ce qu'on appelle l'instinct sexuel ou l'appétit en vue de la procréation, dans le langage de Thomas d'Aquin. Parce que l'instinct sexuel fait partie de cet appétit, mais n'est pas tout cet appétit. Si j'oublie l'âme spirituelle, je deviens esclave de l'instinct sexuel. Et c'est, je crois, la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et dans laquelle les psychologues, la plupart des psychologues, sont là pour plaider. Ils sont les avocats. Ils plaident la cause de l'instinct sexuel. C'est très très curieux ça. Et c'est pas étonnant puisqu'il n'y a plus d'âme spirituelle. Et beaucoup de très bons chrétiens ne comprennent pas ça. Ne font pas ça. Et tu as dit la réaction de très bons théologiens que je nomme pas. C'est l'âme spirituelle, il ne faut plus en parler. Il ne faut plus en parler. Il ne faut plus parler de la personne. Mais on oublie que la personne ne se comprend que par l'âme spirituelle. Si je ne regarde pas l'âme spirituelle, je ne sais plus ce que c'est que la personne. Je ramène la personne à l'individu. Et ramenant la personne à l'individu, l'individu est dominé par l'espèce. Comme individu. Quand l'individu est assumé par la personne, c'est tout à fait différent. C'est la personne qui lui donne une finalité propre. Mais quelles sont les finalités propres de la personne au-delà de l'individu? La contemplation, l'amour d'amitié. Des deux finalités qui dépassent. Si je ne vois plus le point de vue personnel, le point de vue spirituel de l'âme, je ne vois plus la contemplation et l'amour d'amitié. Et alors, je dirais que l'instinct sexuel demande d'être développé pour que l'individu soit parfaitement lui-même, pour qu'il atteigne sa finalité. Donc, comprenez bien que la philosophie du vivant réclame l'analyse à partir des opérations vitales pour découvrir la dynamis, la puissance vitale qui provient de l'âme, qui informe l'organe et qui me fait comprendre à Fils qui est en moi, capable d'être source d'un autre vivant. Et cette puissance provient de mon âme végétative. Elle émane de ma vie végétative, à l'intérieur d'un organe physique.